Berceau.
Bonsoir et bienvenue.
Alain Maillard.
Et c'est déjà la rentrée pour Recto Verso, à la veille du 1er août. Après vous avoir proposé quelques rediffusions, l'émission reprend son cours, un cours presque normal, mais pas tout à fait, puisque nous allons vous proposer, tout au long du mois d'août, une chronique, à la place du portrait de notre invité, une chronique en fin d'émission, inspirée de ce qu'on appelle les blogs ou les weblogs, ces sites personnels sur Internet, alimentés d'anecdotes, de réflexions, parfois de commentaires sur l'actualité. Ce sont plutôt ceux-là, d'ailleurs, que nous explorerons d'un jour à l'autre avec l'auteur d'un article qui nous aura frappé ce soir pour inaugurer cette chronique que nous appelons Blog à l'auteur d'un livre sur l'histoire de ses sites personnels, Blog Story. C'est Émilie Turetini qui sera avec nous en fin d'émission. Nous serons déjà dans le même domaine auparavant avec notre invité principal, auteur d'un livre sur ce qu'il appelle le peuple des connecteurs. Il ne vote pas, il n'étudie pas, il ne travaille pas, mais il change le monde. Thierry Crouzet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes né à Sète, au bord de la Méditerranée, en 1963. Vous y vivez à nouveau et là vous écrivez, vous êtes ingénieur de formation, vous avez été journaliste et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Internet, notamment un best-seller qui s'appelle Le Guide des meilleurs sites web, c'est-à-dire si vous connaissez bien ce monde-là, par lequel donc le monde est en train de changer, selon vous, qu'est-ce qui est en train de changer radicalement et qu'on ne voit pas bien encore ?
Et à mon avis, il y a toute une génération que moi j'appelle les connecteurs qui est en train d'apparaître. Les connecteurs, c'est des gens qui ont pris conscience qu'on vivait dans un réseau. C'est qu'on était tous connectés les uns avec les autres. Donc toute l'humanité aujourd'hui est en train de former un réseau où tout le monde connaît, en fait tout le monde...
Mais on peut pas connaître des milliards de personnes.
Non, non, mais on connaît, comme tout le monde connaît de plus en plus de gens, il suffit de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, et puis les amis de nos amis, ça fait toute la planète.
Et qu'est-ce que ça change alors, que tout le monde se connaisse?
Ça change une chose qui est vraiment très importante, c'est que la société devient beaucoup plus complexe qu'avant. Avant, on était des petites communautés, on connaissait vaguement quelqu'un qui était à l'étranger, c'était tout. Aujourd'hui, la société est en train de se structurer en réseau. Avant, elle était structurée sur une forme de pyramide, en général. Il y avait le roi avec ses sous-fils, puis on descendait jusqu'au peuple. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça. C'est-à-dire que tout le monde est interconnecté également. Pratiquement, moi, je suis aussi connecté que tous mes amis, que le président de la République française, que vous. On est tous également connectés. Donc le monde, c'est en train de s'aplatir. D'une pyramide, est en train de passer quelque chose de plat, où on est hautement interconnecté. Et ça, c'est beaucoup plus... Cette complexité fait qu'on ne peut plus vivre comme avant.
Mais pour le moment, ça n'a pas bouleversé encore les structures de la société.
Non, non, mais, non, bien sûr. La société continue à fonctionner pyramidalement, mais dans cette société, qui apparaît, qui n'est plus structurée comme ça. Donc ça va impliquer des changements d'attitude. Alors il y a des gens, moi les gens que j'appelle les connecteurs, c'est ceux qui changent, ils ont déjà changé la façon de vivre. Et puis les autres n'ont pas changé, mais je pense que ça va être une sorte de contagion. Le fait d'être connecteur, moi je le sens la contagion.
Vous la sentez comment ?
Mais je la sens parce que moi j'ai changé de façon de vivre, plus je me suis connecté avec des gens, plus j'ai joué ce jeu de la connexion, plus je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre différemment.
Ouais. Donc travailler, mais en quoi ?
Par exemple travailler différemment.
Ouais.
Vous dites que j'habite dans le Midi, si j'étais pas connecté, je pourrais pas vivre dans le Midi, je suis obligé d'être à Paris. Comme j'ai vécu 10 ans à Paris, le jour où il y a eu Internet, j'ai commencé à pouvoir vivre où je voulais, c'était fabuleux. Je suis allé vivre à Londres, aux États-Unis, je revenais à Paris, je repartais à Londres, j'allais dans le Midi. Donc ça, c'est une liberté de se délocaliser, c'est la connexion qui le fait.
Ouais. On pourra tous être chez soi bientôt.
Je pense qu'on va... Presque tout le monde, vous par exemple qui faites l'émission, j'aurais pu très bien rester dans le Midi, on aurait peut-être un son un peu moins bon, mais on aurait pu le faire. On va pouvoir faire ce genre de choses. Bien sûr, le gars qui a sa boutique et qui vend le boucher, bon, il faut... Et il y a une grande partie des gens qui vont pouvoir se délocaliser, c'est-à-dire vivre où ils veulent.
Vous dites qu'on a donc, c'est une société, la société Internet, si on veut l'appeler comme ça, c'est une société où il n'y a pas de hiérarchie. Le premier chapitre de votre livre, Thierry Crouzet, s'appelle « Ne pas obéir ». Le premier commandement des connecteurs, c'est ne pas obéir. Pourquoi ?
Une fois qu'on a compris qu'on vit dans une structure qui est un réseau, dans un réseau, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de chef. Donc il n'y a personne qui donne des ordres dans le réseau. Si on prend l'exemple d'Internet, Internet, c'est typiquement un réseau, bien sûr. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de président d'Internet, etc. Donc on n'obéit à personne. On a décidé de faire Internet. Chacun a décidé, moi je me retrousse les manches, je fais mon petit bout d'Internet. Et c'est comme ça que ça se construit, que ça continue de se construire. Donc on a pris l'habitude de ne pas obéir et de faire quand on avait envie. Et on se rend compte que ça marche très bien. C'est pas la pagaille. Ça marche très bien et c'est pas du tout l'anarchie. On a beaucoup de liberté pour être créatif. Et donc moi je dis, pourquoi ça ne marcherait pas dans la société ordinaire, dans la société de tous les jours.
C'est-à-dire que les gens qui devant leur écran à surfer, à communiquer par Internet, etc., Thierry Crouzet, vous dites, au fond, ils vont commencer à appliquer les mêmes comportements ailleurs.
Oui, bien sûr, parce qu'une fois qu'on a compris que ça marchait et que ça donnait des bons résultats, pourquoi pas le faire ailleurs? Je peux vous donner des exemples de choses qui marchent comme ça ailleurs. On a eu un exemple, je donne dans mon livre, c'est l'exemple de comment régler la circulation. Aujourd'hui, la circulation dans les villes, elle est réglée de façon centralisée. Dans les grandes villes comme Paris, même Genève, je suppose qu'il y a une centrale informatique qui essaye de rassembler les signaux et de synchroniser les feux rouges. Résultat, ça marche pas très bien, on peut dire. Il y a toujours des bouchons, et plus les villes sont grosses, plus c'est la panique. Et on s'est rendu compte, c'est un jeune Mexicain, il y a 12 ou 3 ans, il s'est dit, comment on pourrait faire pour faire autrement? C'est-à-dire, on va laisser les feux rouges, on enlève le central informatique, et on va laisser chaque croisement décider tout seul ce qu'il fait. C'est-à-dire, il s'occupe pas du croisement d'à côté. Moi, je vois beaucoup de routes, sur cette rue, beaucoup de voitures qui arrivent. Je vais laisser passer les voitures, je passe au vert, puis je réagis localement comme ça. Et qu'est-ce qu'on a, on a constaté qui se passait? C'est dans les simulations, mais ça n'a pas été encore appliqué dans la... On se rend compte que si on fait ça sur l'échelle d'une ville, d'un seul coup, miraculeusement, il y a une synchronisation qui se fait automatique entre tous les feux rouges. On appelle ça une auto-organisation. Donc, spontanément, il y a de l'ordre qui apparaît et on n'aurait jamais pu, avec un commandement central, arriver autant de beauté, j'allais dire.
Au fond, vous êtes anarchiste.
Voilà, on me dit souvent ça, bien sûr, parce que je dis qu'il ne faut pas de loi. Mais l'anarchie, c'est l'absence de loi. C'est l'absence de loi totale. Ouais. Moi, je dis qu'il faut des lois à un petit nombre. C'est des lois. Alors, je donne, par exemple, avec les feux rouges, c'est les règles, où c'est qu'il y a le plus de voitures. Je laisse passer les gens sur la rue où il y a le plus de voitures. Ouais. Il faut quelques règles qui soient fécondes. Parce que pour que l'auto-organisation fonctionne, il faut qu'il y ait des règles, en fait. Alors, dans mon livre, je donne l'exemple des oiseaux qui volent en flotte. Quand on voit des oiseaux, la migration, par exemple. Donc, il y a des milliers, des centaines de milliers d'oiseaux, et ils forment un V, en général, pour couper le vent. Et on a toujours l'impression, l'idée reçue, c'est qu'il y a un chef de la flotte. C'est un oiseau qui dit aux autres, toi tu passes devant, dès que tu es fatigué, tu recules, etc. Et les ornithologues ont pensé ça. Tout le monde était persuadé que ça marchait comme ça, qu'il y avait un chef. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé ce chef-là. Ils l'ont jamais trouvé, mais ils étaient sûrs qu'il y avait un chef parce que c'est l'idée reçue. Nous, on fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça. En 86, il y a un gars qui s'appelle Greg Reynolds, un Américain, qui a eu l'idée. Il se dit, moi, je pense qu'ils obéissent à trois règles, les oiseaux. Et avec trois règles suffisent à faire que si chacun obéit à ces trois règles, ils volent en flotte. Il a fait une simulation sur ordinateur. Résultat, il a vu que sur son écran des triangles, ils appelaient des boids, se mettre à voler en flotte. Mm-hmm. Donc, il a eu la démonstration que quelques règles permettaient d'engendrer des comportements hyper complexes et qui étaient très ordonnés, qui ne sont pas de l'anarchie. Et il faut quelques règles pour que l'auto-organisation se produise.
Vous prenez donc Internet comme exemple d'auto-organisation, mais il y a quand même des organismes qui gèrent par exemple l'attribution des sites.
Sur Internet, il n'y a vraiment aucune autorité. Il y a les autorités de régulation qui émettent des avis. Par exemple, les normes pour le langage HTML, ça a été normalisé, sauf que personne ne respecte la norme. Donc, il y a des gens qui donnent des avis pour dire comment ça doit être, mais on n'est pas obligé de le respecter. C'est du consulting qu'ils font. Le seul endroit de contrôle, c'est pour l'attribution de noms de domaine. En fait, il y a une base de données des noms de domaine qui est un peu contrôlée par le gouvernement américain. Le problème, c'est qu'Internet peut fonctionner sans ça. Si le gouvernement américain s'amuse à bloquer cette base de données, on peut toujours fonctionner avec ce qu'on appelle le numéro IP. Pour chaque nom de domaine, il y a un numéro qui correspond derrière. Alors c'est plus facile de travailler avec des noms, www quelque chose, que 123.512, etc. Mais si les Américains décident de couper la base de noms de domaine, on peut toujours fonctionner. Donc c'est pas vraiment un vrai contrôle. Ils ont aucun contrôle. Internet est complètement non contrôlé et surtout incontrôlable. C'est ça qui est très important. C'est incontrôlable, totalement incontrôlable, parce que c'est hyper complexe.
Et ça marche.
Et ça marche
c'est
super
ça
bien.
Qui est la grande observation.
Oui, ça marche. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la nature, ça marche pareil. J'ai parlé des oiseaux, je parle pour nous des routes. On sait que les villes, nos villes, sont auto-organisées. On s'auto-organise très bien dans les villes, c'est pas la panique. Et pourtant, si on prend sur une durée assez longue de temps, les villes, ça marche très bien. Il y a des immeubles qui poussent, etc. Et on croit que les villes sont centralisées parce qu'il y a une municipalité, etc. Mais si on prend sur la durée de vie d'une ville qui est des centaines d'années, il n'y a pas de contrôle continu. Elle est livrée elle-même, la ville. Ouais. Et le résultat est quelque chose qui est souvent magnifique.
Vous allez plus loin, Thierry Crouzet, chapitre suivant, ne pas voter. Alors là, c'est carrément s'opposer à ce monde tel qu'il fonctionne.
Ben oui, une fois qu'on a compris que le monde était hyper complexe, donc qu'il n'était pas contrôlable, parce qu'il est complexe, à quoi ça sert de mettre des gens au pouvoir qui ne vont pas pouvoir contrôler ? Ils vont nous coûter de l'argent, ils vont nous mettre des lois en plus pour montrer qu'ils existent parce qu'ils veulent contrôler, et le résultat est que ça ne sert à rien. Ce n'est pas contrôlable, donc ça ne sert à rien. La solution, c'est de s'auto-organiser nous-mêmes, donc c'est de nous auto-organiser, et c'est d'inverser la pyramide. Plutôt que les choses partent d'en haut, on s'auto-organise, ça part du bas et ça monte et les solutions sont trouvées, mais on trouve les solutions tous ensemble.
Oui.
Donc c'est une façon de redonner le pouvoir aux individus.
Oui, mais le pouvoir politique existe quand même.
Ben
il,
oui.
fait, il fait des lois, il prend des décisions qui s'appliquent. Vous, oui. vous pouvez pas ignorer tout ça.
Non, je peux pas l'ignorer, mais surtout que le pouvoir n'a pas envie, n'aura pas envie de lâcher. C'est humain. Ils vont vouloir tenir, mais ils voient Internet. C'est pour ça qu'Internet ils comprennent pas. Moi, je pense qu'il y a aucun homme politique qui comprend Internet. Ils veulent toujours essayer de contrôler, etc. Contrôler. Il y a deux mondes qui sont en train de s'opposer là. Alors j'espère. Je parle de révolution silencieuse, que la génération des connecteurs va doucement diffuser dans la société, que ça va se faire naturellement.
Oui.
Mais c'est pas sûr. Il y aura peut-être un moment donné, on va avoir deux modèles qui vont s'opposer, parce qu'un modèle qui est le modèle des connecteurs, c'est le modèle du business qui est en train de prévaloir, ouais. d'Internet. C'est pas que du business, c'est au niveau social, politique. Et puis il y a le modèle classique.
Hein. Mais comment est-ce que les connecteurs pourraient gouverner un pays ?
Mais ils vont se gouverner eux-mêmes, c'est ça. L'idée, c'est qu'on se gouverne nous-mêmes.
Ouais,
chacun gère au niveau local sa vie le mieux possible, et ça se propage à travers le réseau.
Mais il y a des grandes décisions à prendre, construire une centrale nucléaire ou non, par exemple.
Bah, pour les connecteurs, c'est non, parce que c'est justement c'est des gros projets, donc on va trouver d'autres solutions pour fabriquer l'énergie. Par exemple, l'énergie, pour la fabriquer localement, pour regrouper les énergies qu'on fabrique localement, et au final, on produira autant d'énergie. On va vers cette solution. C'est une solution qui va s'appuyer sur la technologie, bien sûr. Au contraire, et du coup, comme on forme un réseau, on a une conscience planétaire. Ça, c'est très important. On est conscient que si on agit un petit point du réseau, ça se propage à travers le réseau et ça peut avoir des répercussions partout dans le réseau. Donc, on a forcément une conscience écologique quand on est un connecteur. Donc, les gros projets, c'est un peu, ça fait un peu peur.
Pourquoi dites-vous on a forcément une conscience écologique ? Qu'est-ce qui fait que on ait envie de faire le bien à la planète ou aux autres ?
Parce que on est connecté avec les gens. Comme on connaît presque tout le monde, on est en contact avec des gens qui ont des problèmes, avec des gens qui souffrent.
Ouais.
Donc.
Mais on peut leur vouloir du mal quand même.
Oui, mais ça, je dis pas que l'homme va devenir bien. La nature humaine n'a pas changé pour autant. Mais je crois que. En majorité, les hommes sont plutôt bons, entre guillemets, je sais pas ce que ça veut dire, mais plutôt bons. Donc, on aura tendance à aider les gens. La solidarité va se faire par le réseau. Je pense que c'est une sorte de nouvelle fraternité qui existe et qui part de nous. Elle ne part plus de l'État, parce que l'État, maintenant c'est nous qui devons faire les choses. Il n'y a pas longtemps, à côté de chez moi, il y a une maison qui a brûlé. La maison brûle, tout le quartier est sorti, tout le monde s'est mis à parler. Est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on peut vider la cave? Est-ce qu'on peut... C'est extraordinaire. Mais en temps normal, il y a plus, hein. Il faut qu'il y ait un cataclysme dans la vie aujourd'hui pour que tout le monde, d'un seul coup, se mette à se parler. Sur Internet, c'est un cataclysme tous les jours, si vous voulez. Tout le monde se parle tout le temps. Donc, il y a de l'échange, on s'échange. Alors, Internet, je pense que c'est juste un déclencheur. Et j'espère que le déclencheur, cette nouvelle facilité à se parler, va se propager dans la vie de tous les jours. Au café, qu'on va pouvoir de nouveau se reparler dans les cafés. Les gens ne se parlent plus dans les cafés, alors qu'avant, c'était le lieu d'échange.
Oui. Mais est-ce que justement, ce serait pas mieux qu'on se parle au café que par écran interposé?
Moi, je suis un fan intégral. Ouais. Je suis méridional. Donc, le café, pour moi, c'est central dans la vie. Mais je pense que Internet va nous redonner envie d'aller au café pour parler. Et pas seulement pour aller boire un coup et prendre le soleil. Donc j'espère que oui, que c'est une incitation à aller au café.
Le peuple des connecteurs, il ne vote pas, il n'étudie pas, il ne travaille pas, mais il change le monde. C'est dans votre livre, Thierry Crouzet. On vous retrouve dans quelques minutes.